VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 11 février 2022. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Attaque dans le sud-est du Nigeria, 3 policiers ont été tués, 2 autres blessés. Le bilan des attaques dans un parc au Bénin s'est alourdi à 9 morts. Des affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans le sud du Tchad ont fait 12 morts. Et puis le président Joe Biden demande aux ressortissants américains de quitter l'Ukraine alors que les Occidentaux harmonisent leur position face à la Russie. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Nigeria, 3 policiers ont été tués, 2 autres blessés par balle lors de l'attaque d'un barrage par des hommes armés hier dans le sud-est du pays. La zone est en proie à des troubles séparatistes. Nathalie Barche.
L'attaque a été lancée contre un barrage de police sur une route d'Enugu, capitale de l'état du même nom. Le porte-parole de la police de la ville, Daniel Ndoukoué, a indiqué que les informations parvenues sur cet événement sont encore sommaires et que la police est à la recherche des responsables de cette attaque. Dans le sud-est du Nigeria, plus d'une centaine de policiers membres des forces de sécurité ont été tués depuis l'année dernière. Les autorités accuse le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra et son aile paramilitaire d'être à l'origine de ces violences, ce que nie le groupe. Ces derniers mois, l'IPOB a ordonné aux habitants de fermer leur commerce pour protester contre l'arrestation de leur leader, Nnamdi Kanu, poursuivi pour terrorisme. Le groupe séparatiste veut voir renaître la République du Biafra, dont la proclamation d'indépendance avait entraîné une guerre civile à la fin des années 60 qui avait fait plus d'un million de morts.
Au Bénin, 3 attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi ont fait au moins 9 morts et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W dans le nord du Bénin. Le point avec Rosine Munezero.
Le président béninois Patrice Talon a convoqué hier un conseil extraordinaire des ministres à l'issue duquel un communiqué a fait état de 9 morts et 12 blessés. Auparavant, African Parks, une ONG de protection de l'environnement qui gère la partie béninoise du parc W, avait fait état mercredi de 6 morts et 10 blessés. Le lendemain, Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un ressortissant français âgé de 50 ans parmi les victimes. Il s'agit des attaques les plus meurtrières jamais enregistrées au Bénin. Aucune revendication n'a été faite, mais une insurrection djihadiste s'est étendue à certaines parties de l'Afrique occidentale, dont le Niger et le Burkina voisins. Le parc national du W, qui s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, est collé au parc de la Pandjari, où 2 touristes français ont été enlevés en mai 2019.
12 personnes ont été tuées mercredi dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Ces violences sont fréquentes dans cette province où nombre d'habitants sont armés. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le gouverneur du Moyen Chari, où s'est déroulé le drame, a indiqué que la situation est actuellement sous contrôle. D'après son témoignage, un éleveur qui conduisait son troupeau a été tué mercredi par des cultivateurs et en représailles, des éleveurs avec des armes à feu ont tué 11 cultivateurs dans le village de Sandana, à 550 km au sud de la capitale N'Djamena. Dans un communiqué, l'ONG Convention tchadienne des droits de l'homme, qui parle de tuerie sauvage, regrette l'usage de la force comme un mode de règlement de ces conflits. Ces conflits opposent principalement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers, notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Les nomades venant des zones arides sahéliennes cherchent de plus en plus à se sédentariser sur des terres propices à l'élevage de leurs dromadaires et moutons. Début août, 22 personnes ont péri dans des combats pour des raisons similaires à 200 km à l'est de N'Djamena et 35 autres dans le sud plus fertile en février 2021.
La Cour pénale internationale tient la semaine prochaine une audience pour entendre les arguments de Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu chef rebelle au sein de l'armée de résistance du Seigneur. Il avait interjeté appel de sa condamnation à 25 ans de prison en mai 2021 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les juges de la CPI qui siègent à La Haye décideront si un procès en appel doit avoir lieu. L'audience doit se dérouler de lundi à vendredi. Selon l'ONU, la LRA a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants lors de violences qui se sont étendues au Soudan, à la République démocratique du Congo et à la République centrafricaine. Le Soudan du Sud risque de replonger dans la guerre. Les violences ethniques et les luttes intestines au sein du pouvoir menacent de détruire les progrès dans l'application du processus de paix. C'est l'alerte lancée ce vendredi par les Nations Unies. Entre fin 2013 et 2018, une guerre civile particulièrement brutale a opposé les forces loyales au président Salva Kiir à celles de son adjoint Riek Machar. Les combats, accompagnés d'atrocités à grande échelle, ont fait près de 400 000 morts et déplacé 4 millions de personnes selon l'ONU. Le ministre des Finances du Mozambique, Adriano Maleane, a déclaré ce vendredi en tribunal que son prédécesseur avait dissimulé 2 milliards de dollars de dettes ayant provoqué un effondrement des finances publiques du pays. M. Maleane est l'un des plus hauts responsables du gouvernement à témoigner jusqu'à présent dans le procès sur le scandale dit de la dette cachée. Le Mozambique a emprunté 2 milliards de dollars des États-Unis en 2013 et 2014 à des banques internationales pour financer des projets maritimes et des chantiers navals. Le gouvernement a masqué ses prêts au Parlement, mais lorsque la dette cachée a finalement fait surface en 2016, des donateurs tels que le Fonds monétaire international ont coupé leur soutien financier au pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce vendredi toutes les parties à continuer de préserver la stabilité en Libye alors que le pays compte deux premiers ministres. Antonio Guterres rappelle l'objectif premier d'organiser des élections nationales dans les meilleurs délais afin de garantir le respect de la volonté politique des citoyens libyens qui se sont inscrits sur les listes électorales. La déclaration du chef de l'ONU ne mentionne ni les noms du premier ministre intérimaire Abdelhamid Dabeiba, ni celui du nouveau premier ministre nommé jeudi Fatih Bachaga.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants occidentaux s'entretiennent aujourd'hui par téléphone de la crise ukrainienne en pleine tension avec la Russie, tension qui menace de dégénérer en guerre. Jacques Aristide.
L'appel réunit notamment le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Boris Johnson, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'OTAN met de nouveau en garde contre le risque réel de nouveaux conflits armés en Europe. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est lui d'avis que la Russie peut à tout moment envahir l'Ukraine, aux frontières de laquelle elle a massé plus de 100 000 militaires et des armes lourdes depuis des mois. Le président Biden exhorte ses compatriotes à quitter l'Ukraine sans attendre, car d'après lui, les choses pourraient très vite s'emballer. Le gouvernement ukrainien, qui continue de critiquer l'alarmisme de Washington, a minimisé l'importance de cet appel. Pour sa part, le Kremlin, qui dément tout projet d'invasion de l'Ukraine, relève que les pourparlers à Berlin hier n'ont produit aucun résultat. Moscou conditionne toute désescalade à une série de revendications, notamment l'assurance que Kiev n'intégrera jamais l'OTAN, demande déjà rejetée par les Occidentaux qui décrivent la crise comme la plus dangereuse depuis plus de 30 ans.
Nous reviendrons plus en détail sur le dossier ukrainien en partie magazine avec Jacques Aristide. Le président Joe Biden a signé ce vendredi un décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane déposée ici aux États-Unis. Il veut qu'une moitié de cette somme soit réservée pour des demandes d'indemnisation faites en particulier par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. Joe Biden prévoit que l'autre moitié soit consacrée à de l'aide humanitaire à l'Afghanistan, mais versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans, a expliqué la Maison-Blanche. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés ce vendredi en France à mieux protéger l'océan, indispensable à la régulation du climat et riche en biodiversité. Le sommet de Brest, ville portuaire du nord-ouest de la France, va permettre de consolider des actions utiles et un agenda international essentiel pour l'année 2022, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Certains observateurs déplorent toutefois l'absence d'un débat sur le pillage des ressources halieutiques africaines lors de ce sommet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Rosine Munezero.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis dans son discours annuel sur l'état de la nation des mesures décisives pour éradiquer la corruption. Déjà en récession, l'économie de la première puissance industrielle du continent a été sévèrement frappée par le Covid. Le chômage a atteint un nouveau niveau record à 34,9% et touche près de 65% des jeunes. Le chômage a été causé par une faible croissance, causé par un déclin à long terme de notre économie qui dure depuis un certain nombre d'années, a regretté M. Ramaphosa. Les grandes compagnies pétrolières ont enregistré des bénéfices incroyables en 2021, profitant à plein de la flambée des cours du pétrole. Après avoir touché le fond en avril 2020 avec un baril de Brent à $18, le prix du pétrole a progressé en moyenne annuelle en 2021 par rapport à 2020 de 70% pour le prix du Brent, souligne Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Les 27 États membres de l'Union européenne et 13 autres pays ont formé une coalition pour conclure un traité ambitieux destiné à protéger la haute mer, actuellement en négociation, a annoncé le président français Emmanuel Macron vendredi lors d'un sommet à Brest. Les négociations portent sur 4 domaines, la création d'aires marines protégées, les ressources génétiques marines et le partage de leurs avantages, la réalisation d'études d'impact environnemental, ainsi que le renforcement des capacités et les transferts de technologies vers les pays en développement.
À présent, la page des sports avec Bagasikura. Bonsoir.
Bonsoir à tous. En football, ce vendredi, la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF 2021-2022. Ce soir donc, Mamelodi Sundowns joue contre Al Hilal du Soudan. L'étoile du Sahel de la Tunisie affronte le CR Belouizdad du Maroc. Et Wydad Club Athletic affronte Sagrada Esperanza, les champions d'Angola, à 19h. Demain samedi, les AS Tunis contre les champions du Botswana, du Zouaneng Galaxy, ce sera à 13h. Duel entre le Oroya de Guinée et les Sétifs d'Algérie à 16h, toujours demain. Le Zamalek, sous la tutelle de Patrice Carteron, affronte le Petro de Luanda à 16h. Le Raja Club Athletic du Maroc affronte Amazulu d'Afrique du Sud à 19h demain samedi. Le footballeur international français Kurt Zouma, au cœur d'une controverse après avoir été filmé en train de frapper son chat, n'est pas écarté pour le match de championnat d'Angleterre dimanche contre Leicester, annonce ce vendredi l'entraîneur David Moyes. Oui, il est disponible pour jouer contre Leicester, a déclaré le technicien qui avait déjà été critiqué pour avoir titularisé Zouma contre Watford mardi, quelques heures seulement après la diffusion de la vidéo. Il y a différents points de vue et opinions sur le fait qu'il soit disponible. En tant que club, nous avons pris cette décision et je m'y tiens, a réaffirmé ce vendredi l'entraîneur Moyes. West Ham a fermement condamné les actions de Zouma plus tôt cette semaine et lui a infligé une amende d'un montant de 300 000 euros, la sanction la plus lourde possible. Jeux olympiques de Pékin et ce record, après avoir été sacré dimanche sur 5000 mètres, le Suédois Nils van der Poel a récidivé en remportant le titre des JO 2022 sur 10 000 mètres, avec un record du monde sur la distance ce vendredi à Pékin. Il devient le 10e patineur de vitesse à réaliser le doublé 5000 et 10 000 mètres lors des mêmes Jeux olympiques. Avec ses 2 médailles d'or, le Suédois est aussi l'unique champion olympique non-néerlandais en patinage de vitesse de ces JO, alors qu'il reste encore 8 épreuves, dont 6 en individuel. Et puis enfin, en NBA, Phoenix a pris une petite revanche sur le champion titre Milwaukee, battu 131 à 107. dans le remake de la dernière finale NBA ce jeudi, pendant que Luka Doncic plantait 51 points contre les Clippers et que Brooklyn concédait un 10e revers d'affilée à Washington.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale crée la polémique au sein du Parlement. Le groupe parlementaire du PDCI, le plus important de l'opposition ivoirienne, s'y oppose dans un communiqué et dénonce la mise sur la table d'un projet de loi sur le Conseil constitutionnel. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à Abidjan le journaliste Sylvain Namoya, fondateur du journal en ligne Côte d'Ivoire Today.
Les députés de l'opposition disent ne pas comprendre l'empressement du chef de l'exécutif de voir dans l'urgence et la célérité adopter ces textes. Ensuite, ils estiment qu'un tel projet relatif au Conseil constitutionnel à cette session n'est pas pertinent, pointant ainsi du doigt la responsabilité du Conseil constitutionnel dans la survenue des différentes crises électorales survenues en Côte d'Ivoire, notamment en 2010 et en 2020.
La session est-elle illégale ou bien c'est le contenu des dossiers à analyser qui fait le désaccord des esprits?
Je pense plutôt que c'est d'abord l'opportunité d'examiner les projets aussi importants en session extraordinaire qui posent problème. Qu'est-ce qui urge pour qu'on convoque une session extraordinaire? La révision de la loi organique sur le Conseil constitutionnel pour certains députés requiert un consensus qui ne peut être obtenu qu'en session ordinaire d'avril prochain. Ce Conseil qui, par ses décisions, a déjà occasionné plus de 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 et plus de 100 morts liés à la présidentielle controversée de 2020. En outre, le Conseil constitutionnel est un des points en débat dans le cadre du dialogue politique en cours entre le pouvoir et l'opposition pour des élections apaisées et la réconciliation nationale.
Monsieur Namoya, faut-il voir dans ces altermoiements une lutte d'influence pour le contrôle du perchoir au Parlement ivoirien?
Certains n'ont pas hésité à parler de coup d'État au Parlement ivoirien. Depuis quelques jours, en effet, une affaire d'intérim du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, malade et hors du pays, pollue l'atmosphère à l'hémicycle. Et il faut noter que le mardi 1er février 2022, les députés ont appris que le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président Amadou Soumaoro ayant désigné M. Adama Bitogo en qualité de président par intérim de l'institution. Pourtant, une décision qui serait signée du président Amadou Soumaoro est datée du 21 janvier 2022, mentionne qu'en l'absence de M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale en déplacement hors du pays, à compter du 21 janvier 2022, l'intérim de la présidente de l'Assemblée nationale est assuré par M. Bitogo Adama, vice-président de l'Assemblée nationale. Il est pourtant écrit dans les textes de l'Assemblée nationale qu'en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par décès, par démission ou empêchement absolu, l'intérim du président de l'Assemblée nationale est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant. Alors que le plus âgé des vice-présidents est M. Mamadou Diawara, député du RHDP parti au pouvoir, dont M. Adama Bitogo est le secrétaire exécutif.
C'était Sylvain Namoya, fondateur du journal en ligne Côte d'Ivoire Today. Il est également vice-président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Plusieurs groupes de la société civile burundaise en exil ont critiqué la décision de l'Union européenne de reprendre son aide financière directe au Burundi, alors que ce pays continue, selon eux, de piétiner les droits humains. Mais l'Union européenne a fait savoir que sa décision est l'aboutissement du processus politique pacifique entamé lors des élections générales de mai 2020 qui ont porté Évariste Ndayishimiye à la tête du Burundi. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, a demandé à quelques Burundais leur réaction.
Le président burundais et le ministre des Relations extérieures ont salué la levée mardi dernier des sanctions budgétaires prises par l'Union européenne en 2016 née des violences survenues après que le président défunt Pierre Nkurunziza ait voulu briguer en troisième mandat. Mais pour 15 organisations des droits de l'homme en exil, l'espace démocratique s'est restreint depuis l'élection d'Evariste Ndayishimiye, l'impunité persiste et aucune indication n'est visible confirmant la diminution des violations des droits de l'homme. Des hommes de la capitale économique ont donné des points de vue divergents sur cette levée des sanctions de l'Union européenne.
Les indiqués, c'est une bonne chose, mais les autres ignorent de cela. Mais à mon avis, je peux dire que c'est bon. C'est bon parce que nous avons beaucoup de projets qu'on est en train de préparer. Ça va nous aider à demander des financements là, demander des aides pour lancer nos projets. En fait, je peux dire que cela va nous ouvrir des portes quand même. On ne peut pas rester dans le passé.
Dire que ce serait une bouffée d'oxygène pour la population burundaise, je dirais que c'est faux. La levée des sanctions, je dirais qu'elle a été irréfléchie. Les différentes raisons sont toujours là. On observe un peu partout dans le pays des méfaits, si je peux le dire ainsi. Il y a toujours des disparitions, des personnes, il y a marchés qui sont brûlés, il y a l'insécurité qui règne, il y a les viols qui sont commis ici et là, un peu partout à la capitale, ou même à l'intérieur, avec les dirigeants, voire même les forces de sécurité. En un mot, les sanctions qui viennent d'être levées par l'Union européenne, il fallait que ça reste pour mon pays. Je suis burundais, je le dis bien.
Moi, je pensais que c'est bien préparé avant, parce que le président de la République a mené des voyages, notamment aux États-Unis. Maintenant, il vient de passer à l'Union africaine en tant que le chef de la nation. Je pense qu'il y a une nouvelle espoir et qu'on va continuer vers l'avant.
Même si l'Union européenne voit le pouvoir du général Evariste Ndayishimiye comme une nouvelle fenêtre d'espoir pour la population burundaise, les capitales européennes reconnaissent que des défis persistent, surtout dans les domaines des droits humains, de la bonne gouvernance, de la réconciliation et de l'état de droit. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République centrafricaine, la contrebande d'hydrocarbures fait perdre à l'État des centaines de millions de francs CFA depuis la suppression de l'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers en août dernier. Le marché noir a gagné du terrain, un phénomène qui devient une préoccupation dans le pays. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
En août 2021, sur demande des partenaires financiers de la République centrafricaine, le gouvernement a supprimé six agences de l'État jugées budgétivores, parmi elles l'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers, ASRP. L'absence de ces gendarmes du secteur d'hydrocarbures a laissé libre cours à la montée en puissance de la contrebande. Fortuné Bata, directeur général de la SOCASP, la société de stockage des produits pétroliers.
Depuis quelques temps, nous avons constaté que la quantité moyenne qu'on sort par semaine et par mois des produits à destination des stations et des clients a sensiblement diminué. La raison est tout simple, hein. Nous sommes en train de voir le développement d'une certaine contrebande dans le pays. Donc il y a des tierces qui n'ont pas d'agrément, qui n'ont rien, mais qui commencent à faire l'importation des produits pétroliers. Et cela est une entrave totalement pour le fonctionnement et des stations et aussi du dépôt.
En six mois, l'État centrafricain a déjà perdu des centaines de millions de francs CFA à cause du commerce illicite du carburant. Le problème est aussi important dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Début février, une mission du ministère de l'Énergie a démantelé une importante quantité de carburant dans une habitation dans le 8e arrondissement de Bangui. Le ministre de l'Énergie déplore un danger dans les quartiers. Arthur Bertrand Piri.
Si jamais il y a un incendie, ces fuites-là prennent feu, mais ça va aller dans un rayon de 5 km. Ce secteur-là sera calciné. Quelques secondes, voire en quelques minutes. C'est un danger. C'est un danger pour ce quartier, c'est un danger pour Bangui, c'est un danger pour la nation.
Si l'État déplore des pertes financières et une concurrence déloyale encouragée par la contrebande, de nombreux centrafricains s'inquiètent pour leur sécurité.
C'est pas sûr que ces vendeurs-là puissent réserver ces carburants dans la maison afin de vendre, parce que ça peut toutefois créer des incendies qui peuvent jouer sur la population.
Le carburant déjà constitue un danger.
L'enfant peut jouer avec allumette, ça peut même brûler la maison.
maison, le quartier tout entier peut prendre feu à cause de cette contrebande.
Comment comprendre que les trafiquants passent sans inquiétude plusieurs postes et barrières depuis les pays voisins jusque dans la capitale avec de tels produits? Le ministre de l'Énergie, Arthur Bertrand Piri.
C'est une question embarrassante, vraiment, il faut le reconnaître pour moi. Des centaines de fûts qui quittent l'extérieur, qui rentrent au niveau de la frontière, passent des barrières, passent des zones de contrôle, arrivent à Bangui, stockés, et on n'est pas informé. Bon, ça pose un problème.
Pour Dr Vididieu Ngoko Zengue, deuxième vice-président du Conseil économique et social, la contrebande d'hydrocarbures freine l'essor de l'économie nationale.
Le commerce légalement installé ne peut plus croître et c'est les contrebandiers qui profitent, malgré que c'est des produits de mauvaise qualité, qui se font de l'argent, qui ne payent rien à l'État. Et c'est un manque à gagner important pour un État, surtout le nôtre. Donc il faudrait effectivement combattre la contrebande.
Supprimée sur demande des partenaires financiers de la République centrafricaine, la SRP devait être remplacée par une direction générale rattachée au ministère de l'Énergie. Cependant, rien n'est encore fait 6 mois après sa disparition. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Entretien téléphonique aujourd'hui sur le conflit autour de l'Ukraine entre les dirigeants occidentaux, parmi lesquels le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Cet entretien intervient au moment où les craintes que la Russie n'envahisse l'Ukraine se font grandes. Le point avec Jacques Aristide.
Démonstration de force aux portes de l'Ukraine. Des parachutistes américains arrivent en Pologne après leur déploiement depuis la base de Fort Bragg en Caroline du Nord. La Russie, elle, continue ses manœuvres d'envergure au Bélarus, voisin de l'Ukraine, et annonce d'autres entraînements aux missions de combat à Rostov. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, est inquiet.
Il existe un risque d'invasion à part entière, mais aussi d'autres types d'actions agressives, notamment des tentatives de renversement du gouvernement de Kiev, des cyberattaques hybrides et de nombreux autres types d'agressions russes.
Le président américain Joe Biden appelle à ses compatriotes à quitter l'Ukraine sans attendre, car selon lui, les choses pourraient très vite s'emballer. Avertissement relayé par son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, pendant sa visite à Melbourne en Australie.
Nous sommes dans une période où une invasion peut commencer à tout moment. Pour être clair, cela inclut pendant les Jeux Olympiques.
À Kiev, l'appel de quitter l'Ukraine n'est pas vu d'un bon œil. Tanja, 44 ans, enseigne l'anglais.
Eh bien, si l'Amérique soutient l'Ukraine, je pense que c'est un pas en arrière. Ce n'est pas la bonne chose à faire.
Le gouvernement ukrainien, qui a plusieurs fois critiqué l'alarmisme de Washington, s'est toutefois empressé aujourd'hui de relativiser les choses. Dimitro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères.
Nous nous efforçons de décourager la Russie de recourir à toute action agressive avec des armes.
Moscou dément toute velléité agressive envers l'Ukraine. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.
Des approches idéologisées, des ultimatums et des menaces ne mènent à rien. Malheureusement, beaucoup de nos collègues occidentaux se laissent emporter par cette forme d'activité publique et je ne peux pas appeler cela de la diplomatie.
Mais le Kremlin conditionne toute désescalade à une série d'exigences, notamment l'assurance que Kiev ne va jamais intégrer l'OTAN. Inacceptable, jugent les Occidentaux. Et pour parler, ces derniers jours n'ont pas permis de progresser pour résoudre la crise, décrite comme la plus dangereuse depuis la fin de la guerre froide, il y a 3 décennies.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
C'est la fin de ce journal. Un grand merci à la production pour la mise en onde. Restez branchés sur VOA Afrique, voafrique.com et sur nos plateformes digitales et à travers nos radios partenaires pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.